Viens traiter en moi le péché. Viens me libérer des ténèbres.
La Fondation Adonai Iri House vous invite à suivre l'émission Citoyens du ciel et de la terre du pasteur Ghislain Afolabi Agbede.
Et le monde veut me crucifier.
Pour soutenir les émissions radiophoniques de la Fondation Adonai Iri House, Bank of Africa Benin, nom du compte, Association Adonai Iri House, Code Banque BJ 061, Code Guichet 01001, numéro du compte 00119-28-95-0005, Clearing 07, Code Swift Afri BJ BJ XXX.
Mon âme soupire après toi. Viens me délivrer des angoisses. Viens réaliser tes
promesses. Que la puissance du Consolateur, l'Esprit de vérité, troisième personne du Conseil Trinitaire, soit avec vous. Chères auditrices, chers auditeurs, Jésus-Christ reprenant la parole lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. La deuxième personne de la Trinité affirme que c'est la première personne de la Trinité qui a accordé par pur charisme cette révélation au porte-parole des disciples. C'est alors que Jésus-Christ fera la déclaration importante suivante: tu es Pétro, une petite pierre, et sur cette pétra, ce roc, ce rocher dans lequel le Pétro devrait trouver sa place, je bâtirai mon église. Ce n'est donc pas sur la personne de Pierre que le Christ bâtit son église à lui, mais sur la déclaration suivante: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Telle était là la synthèse de notre dernière émission. Bienvenue ce jour à notre émission Citoyens du ciel et de la terre. La compréhension du concept Ecclesia Toupheo, c'est-à-dire Église de Dieu, va essentiellement retenir notre attention. L'ecclésiologie, qui se focalise sur l'étude de l'Église, sur le discours qu'il faut retenir sur l'Église et sur ses différentes composantes et son organisation, nous donne mission de réfléchir, de maintenir, de préserver l'identité de l'Église dans la vision telle voulue par le Seigneur. Étymologiquement parlant, il n'est pas facile de donner une définition exacte de l'Église, l'Ecclésia en grec. Le mot provient de l'hébreu kahal, qui signifie groupe politique, élu, comme on le voit dans Actes au chapitre 19, verset 39. Ça signifie également convoqué, rassemblé hors de, mis à part, dans Exode chapitre 16, verset 3, Actes chapitre 7, verset 38. Dans le sens de appelé hors de, on retrouve également l'idée de kahal, l'idée d'ecclésia. La Septante, qui est la traduction en grec par 70 savants des livres de l'Ancien Testament, qui sont écrits en hébreu en araméen, va utiliser l'expression, le concept ecclésia pour exprimer l'idée de kahal. On le voit en Nombre 19, 20, Deutéronome 23, 2 à 3, verset 8 également. Le radical ecclésia est la forme passive du verbe kaleo, j'appelle. Les mots ecclésias et ecclésiastique découlent d'ecclésia en latin. Il y a donc eu latinisation du mot grec, puis sa francisation avec la notion d'assemblée. Il s'agissait de manière étymologique de comprendre avec Richard Trench qu'au début, l'ecclésia était l'assemblée légitime dans une ville libre grecque. Une assemblée de tous les détenteurs du droit de cité réunis pour traiter des affaires publiques. La dernière partie du mot ecclésia exprime leur qualité de convoquer. Sa première partie est souligne leur convocation hors de la totalité de la population pour être une partie choisie, ne comprenant ni la populace, ni les étrangers, ni les déchus de leurs droits civiques. Le mot revient une fois dans le Nouveau Testament dans son sens primitif en Actes au chapitre 19, verset 32, verset 39 et 41. L'Ecclésia avait alors au départ un sens socio-politique en vue de la gestion de la cité et non un sens religieux comme nous pouvons le comprendre aujourd'hui. C'était une assemblée plénière de citoyens appelée à la gestion des affaires publiques. Quant à Karl Barth, il a compris l'Ecclésia et l'Église comme la convocation du peuple de Dieu, de ce peuple créé par Jésus-Christ sur la base de l'alliance établie entre Dieu et les hommes, de ce peuple de la foi suscité par l'Esprit Saint. Sur les 114 mentions du mot ecclésia dans le Nouveau Testament, 6 seulement se rapportent au sens grec, comme voit en Actes chapitre 19, verset 39, ou au sens juif, Actes chapitre 7, verset 38, Hébreux 2, 12. Dans tous les autres cas, il a un sens spécifique particulier aux auteurs du Nouveau Testament. Ce sens englobe et dépasse toutes les acceptions que le mot avait précédemment, nous informe Alfred Kuhn. Sous l'angle eschatologique, sous l'angle de la fin des temps, le théologien allemand du 20e siècle, Oscar Kuhlmann, voit dans la notion d'église un concept eschatologique. L'église est une donnée s'inscrivant dans l'ordre de la fin des temps. C'est donc à juste titre qu'il affirma en ce qui concerne l'église, quel est le lieu ou l'esprit. Cette caractéristique de la période eschatologique est déjà à l'œuvre comme prémisse. La constitution de l'église par l'esprit devient visible à la Pentecôte. Dans l'église, à travers le Saint-Esprit, les miracles typiques de la période eschatologique sont déjà apparus. Le missionnaire tchadien Bako Ngandei ira dans le même sens lorsqu'il affirme en parlant des membres de l'église primitive qu'ils sont conscients d'être liés entre eux parce qu'ils sont ensemble, unis en Christ et sont un peuple eschatologique. Le moment T eschatologique, c'est le moment où on est touché par la parole de Dieu, qui se passe quand j'écoute la prédication. Pour le théologien allemand Karl Barth, dimanche matin est eschatologique. Son collègue et compatriote Rudolf Bultmann affirma aussi que l'eschatologie, c'est notre rencontre personnelle et individuelle avec Dieu. Rencontre qui se produit lors de la prédication. Dimanche matin, par la tâche herméneutique au sein de l'église locale est eschatologique, d'où l'importance de l'ecclésiologie qui offre la plateforme utile pour écouter, pour vivre le contenu de la révélation divine et prendre des décisions pour son application dans les divers contextes de notre société aujourd'hui. À chaque instant que nous écoutons la parole de Dieu, il y a la rencontre qui se produit dans l'utilisation également des ondes, dans l'utilisation des réseaux sociaux, de la radio, de la télévision. La parole de Dieu est communiquée et cette rencontre a un sens eschatologique. L'Église est pneumatologique. Elle est eschatologique parce qu'elle a reçu l'Esprit Saint qui lui permet de témoigner le Christ et de préparer l'épouse du Christ pour la deuxième venue du Seigneur. L'Église est déjà au dernier temps. Aujourd'hui, c'est la doctrine de l'Église qui apparaît au premier plan des débats dans les institutions de formation théologique comme l'affirme le malgache Salomon Andria. Et cela prouve une fois encore l'importance de l'ecclésiologie eu égard à tous les dérives qu'on observe dans les églises actuellement. Il est donc important de réfléchir encore aujourd'hui sur l'état de l'Église qui regroupe tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. L'Église qui regroupe ceux qui l'acceptent aujourd'hui et ceux qui l'accepteront demain dans la période qui se situe entre la Pentecôte et la deuxième venue de Jésus-Christ. En ce qui me concerne, il faudra retenir conformément ma compréhension que l'Église est le rassemblement des êtres humains faillibles, déformés par le péché originel au jardin d'Éden qui se laisse transformer par le grand berger Jésus-Christ, son chef et fondateur, et qui se reconnaissent désormais comme temple du Saint-Esprit avec pour mission essentielle d'être sel et lumière pour impacter et transformer ce monde à l'image du Christ. Ceci afin que le règne et la volonté parfaite de Dieu puisse vivre sur cette terre dans toutes les sphères de la société où la présence persuasive et dissuasive de l'Église et de ses chrétiens se fait sentir nettement. L'Église est le lieu, la plateforme de sa propre recherche. En ce sens, elle est à la fois objet et sujet de l'ecclésiologie qui vit les données eschatologiques. Selon F. Bauer, l'Église, tout comme Christ et la Bible, a une double nature. Elle est à la fois divine et humaine. Elle est divine par l'intention « Je bâtirai mon Église » et par la réalisation car c'est Dieu qui ajoute à l'Église les âmes sauvées. Elle est humaine par les matériaux qui la composent. Ce sont des hommes et des femmes que Dieu ajoute à son Église. Le Christ est la tête de l'Église dont la temporalité se voit à travers sa constitution de matériaux humains physiques. Chaque être humain créé à l'image de Dieu a un temps limité à passer sur cette terre. L'Église a un caractère éternel en sa qualité d'épouse de Christ qui participera aux noces de l'agneau. L'Église est une en dépit de sa multitude, diversité culturelle et multiethnique. Elle est apostolique universelle, ayant le Christ comme chef et fondateur. Elle est appelée à se sanctifier et à se préparer pour les noces de l'agneau. Émile Bonheur parle du corpus electorum, c'est-à-dire de l'assemblée des élus en référence à 1 Pierre 2, 9 à 10 et du corpus Christi, le corps de Christ qu'on voit en Colossiens 2, 19, tandis que Alfred Kuhn développe quant à lui la notion de communion sanctorum pour signifier la communion des saints. L'Église n'est que le poteau indicateur pour révéler aux hommes le sauveur, nous signale André Lamort. Eu égard à toutes ces définitions, il faut se rendre compte qu'il n'est pas facile de donner une définition exacte de toutes les dimensions que revêt l'Église. Chaque définition met l'accent sur un aspect de ce que c'est que l'Église. C'est véritablement un thème polysémique et J.P. Benoît a raison de déclarer qu'à notre connaissance, jamais personne n'a défini ce que c'est que l'Église. Dans la confession de foi de l'Église évangélique luthérienne, une confession de foi présentée à Augsbourg par certains princes et cités à Sa Majesté impériale Charles V, en l'an 1530, il est mentionné à l'article 7 ce qui suit. Nous enseignons aussi qu'il n'y a qu'une sainte Église chrétienne et qu'elle subsistera éternellement. Elle est l'assemblée de tous les croyants parmi lesquels l'Évangile est enseigné en pureté. Car pour qu'il y ait unité véritable de l'Église chrétienne, il suffit que tous soient d'accord dans l'enseignement de la doctrine correcte de l'Évangile, en conformité avec la parole divine. Mais pour l'unité véritable de l'Église chrétienne, il n'est pas indispensable qu'on observe partout les mêmes rites et cérémonies qui sont d'institution humaine. C'est ce que déclare Saint Paul en Éphésiens 4, versets 5 à 6. Un seul corps, un seul esprit. Et comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il faut donc retenir tout simplement que là où l'Église n'est pas enseignée dans la pureté, dans la vérité, dans la crainte de Dieu, avec une herméneutique crédible, conforme à l'Écriture, il n'y a pas Église, même si c'est un rassemblement qui se prénommerait Église. Ceux qui se réunissent au nom du Seigneur font sa volonté. Il est au milieu d'eux. En d'autres termes, il n'est pas au milieu de ceux qui ne font pas sa volonté. C'est donc un défi pour nous de chercher à revenir dans la pensée de l'Église primitive pour retrouver la pureté, la véracité. Eu égard à tous les mots qui minent l'Église aujourd'hui, à tout ce qui se passe dans les Églises sur tous les plans, il convient de se poser la question de savoir si l'Église contemporaine a encore la même vigueur et la même teneur que celle des débuts à la Pentecôte. L'histoire de l'Église à laquelle l'ecclésiologie est associée nous livre des informations en dents de scie de la marche de l'Église au cours des deux millénaires. Amis de l'émission, citoyens du ciel et de la terre, Jésus-Christ te pose la question aujourd'hui. M'as-tu accepté comme Seigneur et Sauveur personnel? Fais-tu partie de mon Église? En ce jour de grâce et de bénédiction, venez à Jésus-Christ qu'il a fait mis l'ouvrage de vos mains sur cette terre pour que vous impactez la société. Appartenez à l'Église que Jésus-Christ a bâtie. Appartenez à l'Église qui a la victoire sur les œuvres des ténèbres. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Que la puissance du Consolateur, l'Esprit de vérité, troisième personne du Conseil Trinitaire, soit avec vous. Nous vous remercions pour votre écoute et à la prochaine, si Jésus-Christ ne revenait pas.
Viens traiter en moi le péché, viens me libérer des ténèbres.
Vous venez de suivre l'émission Citoyens du ciel et de la terre du pasteur Ghislain Afolabi Agbede.
M'enlacer.
Pour tout renseignement, Fondation Adonai Iri House 01 BP 27 24 Cotonou Bénin. Numéro WhatsApp 00 229 97 11 94 77. Email info@adonaiiri.org. info@adonaiireh.org.
Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi.